Auditeurs, auditrices, bonjour, bienvenue. Si vous nous rejoignez, vous aurez reconnu Manu Dibango qui annonce le commencement de cette émission, La Méridienne. Alors voilà, c'est la rentrée, vous le savez, c'est même la rentrée un peu dépassée, mais c'est une bien belle chose tout de même, la rentrée, parce que ça nous permet d'avoir de nouvelles émissions, ça nous permet d'enregistrer plein de choses sur la rentrée universitaire et vous pourrez entendre bientôt sur nos ondes les reportages, les interviews qui ont été captées par l'équipe Radio Campus sur la rentrée universitaire de l'Université de Tours ainsi que sur l'événement Campus en Fête organisé par le CROUS. Patience, patience, ça va arriver bientôt. Et puis la rentrée, ben, c'est aussi la fin de mon répondeur mail voilà, qui se déclenche automatiquement. Certains voilà, m'ont fait part de leur agacement de recevoir 50 fois le même message. Donc ça y est, la rentrée est faite. Plus de répondeurs non plus. Et plein de nouveaux bénévoles à la radio. Alors j'ai le plaisir d'avoir dans ce studio justement Rachid. Bonjour Rachid.
Bonjour.
Alors Rachid, c'est un plaisir de t'avoir ici dans le studio. Il faut dire que tu n'es pas, disons, un débutant en radio, puisque tu as déjà une expérience dans une radio qui s'appelle Radio Femina. Qu'est-ce que tu aimerais nous en dire?
Tout à fait. Merci beaucoup, Mélissa. C'est un plaisir quand je prends la parole et que vous me donnez l'opportunité de me présenter. Je suis Rachid Abdoul Bagayan et j'ai servi au niveau de la Radio Femina FM en tant qu'assistant technique. Et au sein de cette radio, j'ai participé à pas mal de choses, notamment la réalisation des émissions, notamment bon, quelques reportages. Et je suis chargé également de communication à travers l'intervention dans l'identité visuelle de la radio.
Alors, Radio Femina, c'est une radio qui parle de quoi?
Bon, en fait, quand on parle de la radio féminin, et comme le nom l'indique, c'est une radio des femmes et le slogan, c'est la radio des femmes et de ceux qui les aiment. Et l'objectif de la radio, c'est de mettre en exergue toutes les activités féminines de sorte à ce que tout ce qui a rapport avec la femme, que ce soit les activités que les femmes mènent, que ce soit les combats que les femmes mènent pour la revendication de leurs droits, soit entendu au niveau local et sur la sphère internationale.
Merci à toi. Donc, bienvenue à Radio Campus. On est ravis d'avoir voilà, de nouvelles personnes dans notre équipe. Voilà, tu pourras réaliser des émissions, évidemment, si tu le souhaites, nous proposer des reportages et des émissions. Alors, sans transition aucune, nous allons passer à la chronique culturelle. Donc, une chronique validée. Qui nous est proposée par Estelle. Alors cette fois-ci, Estelle nous propose une chronique sur le petit traité du silence de Pascal Bataille. Écoutons ceci et on se retrouve tout de suite après, toujours dans la Méridienne, sur le 99.5 FM.
Validé, Estelle, sur Radio Campus. Va voir, lis-le, découvre. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un petit livre aussi discret que son sujet, mais qui pourrait bien changer notre manière de vivre. Le traité du silence à destination des gens bruyants de Pascal Bataille, paru aux éditions Trédaniel. Ce n'est pas un manuel de méditation poussiéreux, ni un guide pour ermite en quête de cabane au fond des bois, mais plutôt une invitation malicieuse à redécouvrir la valeur du silence et à en faire un art de vivre. Nous vivons dans une société où le bruit est devenu la norme et le silence une exception. Considéré comme un ennemi public, il interroge, dérange, alors même qu'on lui reconnaît des vertus insoupçonnées. Alors concrètement, la sursollicitation auditive, ça vous évoque quoi? Je vous invite à écouter la réponse de Pascal Bataille.
Qu'on ne donne plus assez au silence dans nos vies, non pas que le silence soit une fin en soi, mais au milieu de tout ce bruit, de ce tumulte, que ce soit les sons de la ville, que ce soit le surbruit de l'information qui encombre nos cerveaux en permanence, ce qui fait qu'on n'a plus le temps de réfléchir, de laisser résonner les choses et les pensées, j'ai l'impression qu'on s'abrutit de plus en plus dans ce bruit, qu'il faudrait redonner dans notre société en général et dans nos modes de vie en particulier de la place au silence. Et donc, j'ai essayé de traverser au milieu de plein de thématiques qui vont de la musique aux médias, en passant par l'apprentissage, la sagesse, etc. Le rôle que peut avoir le silence, souvent le silence peut être thérapeutique.
L'auteur explore le silence sous tous ses angles, philosophie, neurosciences, art et même sexualité. En France, pays des cafés animés, des débats enflammés, le silence peut sembler une denrée rare, voire suspecte. Pourtant, il est partout, dans l'intimité des non-dits qui pèsent autant que les cris, dans le processus créatif des artistes ou bien dans ces moments où l'on éteint enfin les écrans pour retrouver son souffle. Bataille en fait un outil de résistance, une façon de reprendre le contrôle sur notre attention et notre esprit critique. Vous avez peut-être en tête, comme moi, cette publicité des parents, excédés par le bruit de leurs enfants à l'arrière de la voiture, qui achètent des Happy Meal pour obtenir le silence. Pascal Bataille nous rappelle que le vrai miracle ne réside pas dans des nuggets, mais dans notre capacité à apprivoiser ce silence. C'est un peu comme boire un verre de Vouvray ou de Bourgueil. Ça se déguste lentement, ça s'apprécie, ça révèle des saveurs insoupçonnées. En somme, le silence, ça se cultive. En parlant de notre patrimoine gastronomique, je vous laisse découvrir le lien de cet auteur avec notre Touraine.
J'ai pas de lien spécifique avec la Touraine, sinon le plaisir d'y venir très régulièrement depuis très longtemps. Je suis venu tout petit, évidemment, avec mes parents faire les châteaux. J'ai emmené mes enfants, donc j'adore la Touraine, surtout quand elle est aussi ensoleillée qu'aujourd'hui.
Il faut dire aux auditeurs que notre rencontre à la Forêt du Livre chez Gonzague Saint-Brice s'est faite sous une symphonie de gouttes de pluie. Et oui, le silence, c'est comme la météo, on ne le maîtrise jamais. Alors paradoxalement, il y a bien un bruit que vous aimez.
Alors le bruit qui m'apaise le plus, parce que le bruit n'est pas mauvais en soi, c'est comme le silence n'est pas bon en soi, c'est l'usage qu'on en fait. Le bruit qui m'apaise le plus, de façon incroyable, le bruit de la mer. J'ai la chance de vivre au bord de la mer depuis de longues années et j'avoue que c'est le bruit qui est le plus important pour moi et le plus apaisant.
C'est le silence qui se remarque le plus.
Si le sujet vous intrigue, découvrez le traité du silence à destination des gens bruyants de Pascal Bataille aux éditions Trédaniel. Un essai poétique et philosophique, pas pour se taire jamais, mais pour mieux entendre, mieux penser, mieux partager. Allez, entre nous, c'est peut-être aussi un guide de survie indispensable pour vos prochaines réunions ou vos dîners de famille, mais chut, gardons le silence, c'est un secret.
Merci à Estelle qui nous propose ses chroniques validées. Je vous propose à présent une petite pause musicale. Et alors, devinez quoi, ça va me permettre eh bien, de laisser arriver nos invités en studio. Alors, nous allons écouter une pause musicale, chef de service à votre service, et on va se retrouver tout de suite après.
Madame la professeure, par ces mots manuscrits, je veux avec chaleur remercier votre service. Durant la maladie, ils ont su me porter, toujours prêts à agir et à me rassurer. Je veux à travers vous aujourd'hui leur redire que je garde malgré tout un très bon souvenir. C'est grâce à votre équipe, oh vraiment magnifique. 1, 2, 3, 4. Chère équipe, cher service, nous les chefs de service
témoignons sans tabou que nous sommes fiers de vous.
Chère équipe, cher service, quand tout devient intensif,
vous savez réagir par votre douceur et par vos rires.
Tout ce chemin parcouru, malgré des tâches ardues,
vous pouvez être fiers d'apporter cette belle lumière.
Vous faites les plus beaux métiers, cette chanson veut le clamer. Merci de vous investir, merci de servir.
L'hosto c'est pas facile tous les jours, les moyens tournent trop court.
Votre engagement force le respect, pour en tirer notre force, c'est vrai.
C'est très bien fait, merci, nous n'avons pas changé. Merci, les patients satisfaits, merci, soyez en remerciés. Merci, c'est très soigné, merci, pour notre humanité. Merci, soyez en
encourager, merci tous à continuer. Chef de service, à votre service. Chef de service, à votre service. Chef de service, à votre service. Chef de service, à votre service.
Et nous voici de retour après cette pause musicale dans le studio de Radio Campus. Alors, ça s'appelait Chef de service à votre service. Et oui, oui, il y a un lien avec nos invités de cette émission La Méridienne. Vous allez comprendre, auditeurs, auditrices, en découvrant de qui il s'agit. Alors, je vais commencer par saluer Nicolas Vallée. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes hématologue clinicien, vous êtes chef de clinique assistant, enseignant-chercheur et vous faites partie de l'UMR N2COX. Est-ce que c'est bien ça ?
Exactement. Alors, j'ai été promu maître de conférence. Voilà, mais et donc, c'est l'unité N2COX qui est une unité INSERM labellisée cancer à Tours, mais sinon dans le service d'hématologie et thérapie cellulaire.
Voilà, retenez ça, auditeur, auditrice, N2COX. Ça fait un peu moins ringard, en effet, quand on prononce... comme ça. Et alors, qu'on a de la chance d'avoir dans ce studio aussi deux infirmières, je crois. Bonjour Emmanuelle Lardier.
Bonjour.
Vous êtes infirmière coordinatrice des greffes au service d'hématologie et thérapie cellulaire du CHRU de Tours.
Oui, tout à fait. Voilà. Depuis maintenant quelques années.
Voilà, merci à vous et votre collègue aussi qui est ici, Mélanie Dacruz. Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous êtes sur la même fonction que votre collègue ?
Alors moi, j'étais infirmière pendant 7 ans dans le service et je viens d'intégrer le bureau de coordination depuis le mois de septembre sur les cartes ticelles et autogreffes.
Voilà, donc vous allez pouvoir nous expliquer plus en détail vos missions respectives. Alors, auditeurs, auditrices, ça y est, on a spoilé le sujet de l'émission. C'est hématopathie maligne et cellules CAR-T. Alors peut-être qu'on peut savoir tout d'abord de quoi on parle. Donc les cellules CAR-T, on parle d'hématopathie maligne. Est-ce qu'on est déjà dans la médecine palliative ?
Alors là, pour tout ce qui va être des hématopathies malignes, donc qui correspondent à les cancers du sang, l'organe qui fabrique les cellules du sang, donc qui est la moelle osseuse en particulier, donc ça va être les leucémies ou alors les cancers des ganglions. Donc là, ce qu'on appelle les lymphomes. Et on peut être amené à utiliser les CAR-T cells dans le cadre du traitement de ces maladies-là. Alors non pas dans un contexte de soins palliatifs, où là, en fait, on est dans une approche où on va viser à optimiser la qualité de vie et limiter les effets indésirables des traitements. Et donc pour les CAR-T cells, on est très clairement dans une approche curative, où on a pour objectif des patients qui vont avoir donc soit une leucémie aiguë lymphoblastique, soit un lymphome, ou même des myélomes. Maintenant, on a les indications dans le myélome, et bien d'avoir donc un objectif curatif, c'est-à-dire donc soit on arrive à se débarrasser définitivement de la maladie, soit on arrive à obtenir une réponse complète qui va durer le plus longtemps possible.
C'est quoi alors le plus longtemps possible ?
Alors pour ce qui est du lymphome en général, donc là notre objectif c'est la guérison. Pour le myélome, pour l'instant on n'a pas de traitement qui permette de guérir la maladie. C'est une maladie chronique, donc une maladie de la moelle osseuse, qui va nécessiter des traitements réguliers. Ça peut être donc par exemple ce qu'on appelle un temps en tout cas de rémission après les CAR-T cells qui serait acceptable. Ça pourrait être 5 ans sans traitement par exemple. Ça, c'est des choses qui sont à attendre. Du moins, c'est ce qu'on en espère de ces traitements.
Alors là, on va parler dans cette émission du traitement avec ces CAR-T cells, mais est-ce qu'il y avait d'autres traitements ? Est-ce qu'il y a toujours d'autres traitements proposés dans votre service ?
Les traitements qu'on propose, donc c'est avant, bien sûr, les CAR-T cells, ce n'est pas le premier traitement qu'on va être amené à faire dans le cadre du service. On peut être amené à faire donc, des chimiothérapies. Donc là, ça va être donc, le traitement initial de la maladie, où on a donc beaucoup de tumeurs. Et l'objectif du premier traitement, c'est de faire diminuer cette tumeur le plus possible pour qu'il en reste d'infimes quantités, suffisamment infimes pour que la maladie soit complètement disparue, ou alors suffisamment infimes pour qu'effectivement, il y ait une réponse qui dure plus ou moins longtemps. Et en fait, ce qu'on cherche à faire par la suite, soit on sait que la réponse au traitement est suffisante pour permettre une guérison, soit on se dit que la guérison est peu probable parce que la maladie était très agressive au départ, et donc dans ce cas-là, on va avoir besoin d'un traitement complémentaire pour permettre d'éviter la rechute. Et donc là, on peut être amené à proposer les CAR-T cells dans ce contexte-là, par exemple.
Les fameuses CAR-T cells, depuis quand ça existe dans votre service à vous ? Je crois que vous avez fêté la 100e injection. Et alors, c'est quoi les différences principales avec les autres traitements ?
Alors, pour la centième injection, je crois qu'on est à 144 ou 145 là maintenant, là,
faut dire, il faut dire à nos auditeurs que l'émission a été préparée avant. Et que du coup, comme vous le voyez, il y a des choses qui n'ont pas eu le temps d'être mises à jour. Mais bon, c'est parfait, on le fait en direct, je vous en prie.
C'est qu'on a vraiment une activité qui est en pleine expansion, donc qui a débuté fin 2021. Avec, il me semble, en fin 2021, c'était novembre, décembre, il devait y avoir 4 injections ou 5 sur 2021. Et depuis, bah, comme effectivement, quand on avait échangé, on arrivait à la centième injection. Là, maintenant, on a largement dépassé ce chiffre-là et on en attend au total, d'ici la fin de l'année, à peu près 150 depuis qu'on a commencé. Ces traitements, on en attend, donc on les réalise donc après la chimiothérapie et l'objectif, donc, c'est donc d'augmenter la réponse. J'ai perdu le fil de la question, je suis désolé.
C'est quoi la différence, fait, avec les autres traitements ? Donc, ça intervient après, est-ce que ça potentialise l'effet des autres traitements ? Est-ce que c'est, comme vous le disiez, quelque chose qu'on utilise quand rien d'autre n'a marché avant ?
Alors, les CAR-T-cells, en fait, c'est assez formidable comme stratégie, puisque ce traitement a pour objectif de rétablir ce que l'organisme est censé faire au quotidien. C'est-à-dire c'est une surveillance immunitaire de l'ensemble de l'organisme. Au quotidien, on est soumis à plusieurs types d'agressions, que ce soit des infections, que ce soit même de l'irradiation UV, que ce soit n'importe quel autre stimulus donc, qui pourrait abîmer les cellules. Et donc on a un système immunitaire qui va nous protéger contre la transformation de ces cellules qui pourraient être abîmées par un environnement, par exemple. Et donc la transformation de ces cellules en cellules tumorales, cancéreuses. Et ce système immunitaire, bah, parfois, il peut être amené à être fatigué parce qu'il y a trop de cellules à éliminer, ou alors parce que les cellules à éliminer passent sous le radar de ces fameuses cellules immunitaires. Et donc dans ces deux situations, en fait, les cellules immunitaires donc, n'ont plus leur fonction contre la tumeur. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour traiter la tumeur ? Ce qu'on fait depuis les années 70, de la chimiothérapie, on a fait quelques améliorations depuis les années 2000 avec les immunothérapies, donc les anticorps qui vont reconnaître les tumeurs pour augmenter l'effet de la chimiothérapie. Et donc là, on est sur l'utilisation des cellules immunitaires, donc les lymphocytes T, qui sont les cellules qui habituellement nous débarrassent contre les infections, contre les cellules cancéreuses. Eh bien, on va prendre celles des patients, celles qui sont justement un peu fatiguées, et on va les armer avec un nouveau système de détection des tumeurs, qui est le CAR, pour Chimeric Antigen Receptor. Et on va créer des CAR T-cells, donc des lymphocytes T armés d'un CAR, et avec ce CAR, ces lymphocytes T vont venir reconnaître et s'activer dès qu'ils reconnaissent la tumeur, ce qu'ils n'arrivaient plus à faire sans ce nouveau récepteur. Et donc, grâce à ça, on fait en fait de l'immunothérapie, de la thérapie cellulaire, avec peu d'effets indésirables, puisque jusqu'à maintenant, ce qu'on faisait comme thérapie cellulaire de ce type-là, c'était utiliser des cellules immunitaires d'autres patients. Donc là, c'était de la greffe. Et donc, si on fait de la greffe, on a le risque de réaction immunitaire liée à la greffe, qui peut être compliqué à gérer. Et donc, pour la partie lymphome et myélome, justement, on a la possibilité d'armer des lymphocytes T du patient avec ce récepteur qui va donc permettre aux cellules immunitaires qui sont endormies de se réveiller contre la tumeur. Et donc c'est en complément à l'heure actuelle des traitements par chimiothérapie, puisqu'on sait que plus la masse tumorale résiduelle est faible, plus les CAR-T-cells fonctionnent, et donc on a besoin de faire de la chimiothérapie avant pour permettre aux CAR-T-cells d'être le plus efficace.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une thérapie sur mesure ?
Alors, c'est tout à fait une thérapie sur mesure. Je pense que c'est vraiment ce qu'on peut utiliser comme terme, puisqu'on va vraiment partir des cellules du patient pour produire de nouvelles cellules, enfin, les mêmes cellules, mais qui vont avoir donc ce nouveau récepteur et qui, en plus, est sur mesure parce qu'il va reconnaître, selon la maladie, différents types de protéines, c'est-à-dire c'est des molécules qu'on trouve à la surface des cellules malades.
Donc là, on a des traitements innovants, vraiment particuliers. Comment ça a fait évoluer, disons, les prises en charge dans votre service, ces innovations ?
Ben, je pense que d'un point de vue du patient, ça a fait évoluer les prises en charge parce que jusqu'à maintenant, ce qu'on faisait pour ces patients-là, c'était de la chimiothérapie. Et puis, si le patient était à haut risque d'avoir une rechute, très rapidement, on refaisait de la chimiothérapie à plus forte dose. Et donc, ça faisait parfois des hospitalisations pour de 4 à 6 semaines pour les chimiothérapies les plus fortes, où on était obligé même de réinjecter donc, des cellules pour faire de ce qu'on appelle des autogreffes. Et sans rentrer dans le détail, donc des hospitalisations parfois difficiles, pour un résultat qui n'était pas toujours au rendez-vous en termes de prévention de la rechute, alors que là, pour les carticelles, l'hospitalisation reste quand même de 3 à 4 semaines, on va dire 3 semaines grosso modo, mais avec une tolérance qui est nettement supérieure. Et ce que ça change dans le service, c'est qu'on fait de moins en moins de fameux autogreffes, d'intensification de chimiothérapie, et on a donc des options de traitement, et même pour des patients qui n'avaient pas à l'époque d'espoir de guérison, l'obtention là ici de guérison grâce à ce traitement-là.
Je vous remercie Nicolas Vallée pour toutes ces précisions. Alors on va s'intéresser ensuite évidemment au parcours du patient, hein, puisque vous les avez mentionnés, évidemment ils sont au cœur de votre travail, comme ça vos deux collègues infirmières pourront nous expliquer quel rôle elle joue dans le parcours du patient. Et je vous propose de faire avant ça une pause musicale. Allez, on va réécouter Manu Dibango et puis on se retrouve tout de suite après sur Radio Campus Tours.
Como Africa bese benangino ibunda itumina unya bombe de bo Africa yese e mabeno bujai se doti Kusu, Iben, Ninam, Nanina, Geba, Nebe, Sebe, Se, Bama, Nade, Dike, Bana, Tuwena, Aye, Koko, Na, Baba, Bebona, Dane, Bizona, Bizoba, Namukala, Atitibe, Afrika, Independence,
Où es-tu?
Ça, c'est la question.
Africa,
Et c'était le fantastique Manu Dibango dans la Méridienne sur Radio Campus Tours. Nous sommes de retour dans le studio avec nos invités, Nicolas Vallée, Emmanuel Lardier, Mélanie Dacruz et Rachid, donc, qui est aussi bénévole à la radio. Alors nous parlions justement du traitement par cellule CAR-T. Alors je me tourne vers vous, Emmanuel Lardier, vous êtes infirmière coordinatrice. Est-ce que vous voudriez nous expliquer en quoi consiste votre travail ?
Oui, alors nous, en fait, à Tours, on est le seul centre de la région, Centre-Val-de-Loire, en fait, à faire ce traitement, les CAR-T-cells. Donc, beaucoup de patients nous sont adressés par les départements limitrophes, donc tous ceux qui viennent de Bourges, Blois, Orléans. Ça fait beaucoup de patients. Hein, en fait, on a une majorité de patients qu'on traite qui viennent de centres adresseurs. Donc, nous, en fait, notre rôle, c'est de vraiment coordonner tout le parcours patient dès que l'indication, en fait, de traitement par CAR-T-cell est posée. Donc, nous, c'est déjà la prise de contact avec le patient, lui expliquer un petit peu en quoi ça consiste et bien évidemment, lui dire que ça va impliquer que tout le traitement va se faire loin de chez lui. Parce que, mine de, quand on a des patients qui viennent de Montargis, on a plus de 2h30 de route. Donc avec tout ce que ça a derrière... tout ce que ça peut changer pour l'organisation du patient, de venir sur Tours, donc tous les différents rendez-vous, l'hospitalisation, donc il va devoir venir plusieurs fois. Donc nous, on est vraiment central au niveau de la coordination pour un petit peu orienter le patient et puis faire en sorte de bien communiquer entre le centre adresseur et le CHU de Tours.
C'est-à-dire que vous avez une vraie mission de médiation aussi, de vulgarisation, parce que c'est à la mode, la vulgarisation scientifique, donc d'expliquer les tenants et les aboutissants, du traitement, les potentiels effets secondaires, ce qu'il faut faire avant, pendant, après.
Oui, c'est ça, tout à fait. La première étape, c'est une consultation médicale, bien évidemment, où le médecin hématologue va expliquer un petit peu en quoi consiste le traitement. Et nous, on le revoit un petit peu à distance, le temps que le patient ait bien intégré tout ce qui lui a été dit. Donc, on le revoit à distance en consultation infirmière pour vraiment reprendre avec lui tout ce qu'il a compris ou pas compris. Et puis, notamment, expliquer l'hospitalisation en unité protégée, parce qu'il y a une partie de CAR-T-cell qui se fait en unité protégée, donc avec des contraintes liées à l'hospitalisation. C'est une consultation qui dure assez longtemps avec visite de l'unité. Ça permet de rassurer parce qu'on a toujours un petit peu peur de l'inconnu, notamment avec une équipe différente de celle qu'on a l'habitude d'avoir dans son centre référent. Donc on est un petit peu la personne ressource pour ces patients-là.
C'est-à-dire qu'il y a aussi des compétences évidentes d'écoute aussi, de réassurance. On peut avoir des gens qui sont très stressés ou qui ont peur.
Oui, bien sûr. Bon, de toute façon, quand on fait le poste de coordination de greffe, on a été dans les soins auparavant. Donc moi, j'ai fait 10 ans en tant qu'infirmière dans les soins en hématologie avant de prendre le poste de coordination. C'est important de connaître le fonctionnement du service, les pathologies, avant de se lancer sur la coordination de greffe, qui est un métier infirmier complètement différent de ce qu'on peut voir dans les soins. Mais il y a en effet toute cette écoute qui est importante. On fait moins de technique, mais on est beaucoup dans l'humain.
Et alors, de mémoire, on avait discuté en préparant cette émission, il était question de faire une aphérèse au patient. Alors, attention, j'ai lâché le mot aphérèse à l'antenne. Est-ce que vous voudriez nous expliquer, peut-être autour de ces micros, en quoi ça consiste, comment ça se passe et à quoi ça sert ?
Alors, l'aphérèse, en effet, c'est la première étape. Une fois que le patient est éligible au CAR-T-cell, donc on va organiser en partenariat avec l'établissement français du sang. Donc l'établissement français du sang, il y a différents services là-bas. Donc il y a le centre de soins, donc c'est là-bas que les aphérèses sont réalisées. Et il y a également le service de thérapie cellulaire. Donc la thérapie cellulaire, c'est eux qui vont gérer tout le greffon une fois qu'il est, ou les cellules une fois qu'il a été prélevé. Donc l'aphérèse, qu'est-ce que c'est ? C'est la manière en fait de prélever les cellules du patient. Donc on l'utilise pour différentes thérapies, autres aussi que l'hématologie, l'aphérèse. Mais là du coup, on va prélever les lymphocytes. Donc on est le lien aussi avec nos partenaires à l'extérieur de l'hôpital. Et donc le patient pour l'aphérèse doit être perfusé sur les deux bras. Ça se fait en fait et on prélève le sang qui est filtré. Et dans une poche, il ne reste que les cellules dont on a besoin qui seront ensuite envoyées pour être modifiées.
Alors voilà, on prélève le patient, donc les globules blancs, on met dans une poche, et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait de cette poche ? C'est quoi le trajet de ce prélèvement ?
Ce prélèvement, après, je vais reprendre la parole. Donc, il repart, il va d'abord par le service de thérapie cellulaire à l'établissement français du sang, qui va donc vérifier que le prélèvement est de bonne qualité, qu'il y a eu tous les process qui ont été suivis à la lettre. Et puis ensuite, ils font donc un prélèvement donc, pour vérifier la teneur en globules blancs avant de pouvoir l'envoyer. Donc là, dans ce cas-là, vu que c'est un médicament, on l'envoie à un industriel. Donc ça peut être de différents industriels selon le quartier à produire pour le patient. Et donc c'est envoyé le plus régulièrement maintenant en Europe. Donc avant, ça traversait l'Atlantique. Maintenant, c'est dans les Pays-Bas. Et donc ce prélèvement, ensuite, selon les différentes modalités de production, mais globalement pour faire un CAR-T-cell à partir de cellules de globules blancs prélevés à un patient, la première étape, c'est de récupérer les lymphocytes T. Donc pour ça, on utilise en fait une stratégie avec donc un tri avec des colonnes magnétiques. Alors dit comme ça, ça paraît un peu de la science-fiction, mais en gros, on va marquer les cellules que l'on souhaite récupérer avec un composé qui va être retenu par un champ magnétique. Et ensuite, on va faire passer l'échantillon, donc le sang, à travers des colonnes qui vont retenir justement uniquement les lymphocytes T. Et puis ensuite, on récupère ce qu'il y a dans les colonnes, qui sont les lymphocytes T. Ensuite, les lymphocytes T, c'est un type de cellule qui est très facile à cultiver dans des boîtes en plastique. Il suffit de leur donner de quoi s'activer et elles se divisent. Et donc ça, c'est ce qui est réalisé donc, par l'industriel. Donc il va leur donner différents signaux pour qu'elles puissent se diviser. Et puis lorsqu'elles vont se diviser, on va infecter, parce que c'est ça en fait, hein, la production d'un CAR, il faut infecter un lymphocyte T avec un virus pour qu'il vienne intégrer à l'intérieur du génome du lymphocyte T un nouveau gène qui va permettre la fabrication justement de cet outil de reconnaissance de la tumeur, le CAR. Et donc une fois que la cellule a ce nouveau gène, ce qu'on appelle donc un transgène, eh bien il va pouvoir donc produire le CAR et l'exprimer à la surface de cette cellule. Et là, après vérification et encore un peu de culture pour avoir un nombre suffisant de lymphocytes T produits, eh bien, donc on vérifie que le CAR est bien exprimé à la surface des cellules. Et ensuite, tout est congelé et renvoyé à l'établissement français du sang qui conserve donc les CAR donc dans des cuves d'azote liquide. Et ensuite, le travail de la coordination reprend, justement, à la réception. Et donc là, on est en lien, mais Manuel ou Mélanie le diront tout aussi bien que moi. Mais voilà, donc, après, on va collaborer avec les collègues de l'EFS à nouveau et les pharmaciens de l'hôpital.
Alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a cette poche congelée ? Qu'est-ce qu'on en fait ?
Et ben, du coup, une fois qu'elle est de retour sur le site, donc là, on organise l'hospitalisation du patient. Bien évidemment, on essaye de se coordonner au maximum pour que l'hospitalisation coïncide en fait avec le retour de la poche. Plus le temps de fabrication est court et mieux c'est. Et nous, derrière, en fait, comme ça, le patient peut avoir à nouveau son injection dès que possible, en fait. C'est un petit peu ça. L'objectif, c'est d'avoir le moins de temps possible entre la férèse et la réinjection, de laisser le patient le moins longtemps possible sans traitement. Alors, des fois, il y a besoin de faire un traitement d'attente. Donc ça aussi, c'est tout le rôle de la coordination en partenariat avec les centres adresseurs également. Mais donc une fois que la poche est de retour, le patient est hospitalisé. Donc, on lui fait ce qu'on appelle une lymphodéplétion. Donc 3 jours de chimiothérapie à faible intensité, entre guillemets, pour diminuer donc, un petit peu ces globules blancs, pour faire de la place aux nouveaux lymphocytes qui ont été modifiés, donc les CAR-T-cells.
Alors c'est quoi les effets secondaires potentiels de ce traitement ?
Les effets secondaires, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y en a de moins en moins. Ce qui était décrit au tout départ, c'était on réinjecte des cellules immunitaires qui vont reconnaître des tumeurs. Et ces cellules-là, quand elles reconnaissent leur cible, elles font comme quand on a un gros virus, une grosse infection, eh bien, elles déclenchent un syndrome infectieux. Donc un syndrome infectieux, c'est une grosse grippe, on va dire. Une grosse grippe, beaucoup de température. Et puis parfois, quand c'est une très grosse grippe et que l'ensemble des phénomènes inflammatoires est incontrôlé, ça peut donner donc des un tableau qui ressemble à des infections très sévères avec de la baisse de tension. Donc ça, c'est ce qui était observé au tout départ. Maintenant, on maîtrise beaucoup mieux, et on a moins ces effets indésirables-là, mais ce qu'on observe la plupart du temps, c'est de la fièvre dans les jours qui suivent l'injection. Une fièvre qu'on maîtrise assez facilement avec du paracétamol. Et puis après, parfois, on peut être amené à faire des traitements supplémentaires pour calmer l'inflammation, pour justement, quand on sent que la fièvre est un peu trop élevée et que le patient tolère moins bien la fièvre, donc à ce moment-là, on peut être amené à déclencher d'autres types de traitements pour éviter ça, enfin pour calmer cette inflammation-là, sans remettre en cause l'efficacité du traitement par carticelle. Et la deuxième complication, donc ça c'est ce qui occupe un petit peu plus quand même, c'est comme il y a beaucoup d'inflammation, alors qu'on ne comprend pas encore tout à fait comment ça fonctionne, mais du fait de l'inflammation systémique, donc c'est-à-dire dans l'ensemble du corps, il y a une perméabilité de la barrière qu'il y a entre le sang et le cerveau, et ce qui peut donner lieu à des complications neurologiques, donc qui se manifestent de façon extrêmement différente selon les patients. Ça peut aller de un patient qui se souvient plus très bien du jour ou de la date ou de où il est, à d'autres qui ne se souviennent plus de leur nom, ou du moins ils n'arrivent plus à le dire, en fait, ce qu'on appelle une aphasie, n'arrivent plus à parler, à dire des mots. D'autres patients qui ne vont pas comprendre ce qu'on leur demande, alors qu'en fait, ils arrivent à s'exprimer correctement, mais ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Et puis, dans les formes les plus graves, ça peut être, mais là qu'on voit encore une fois de moins en moins, parce que le process de fabrication d'écart est différent et qu'on a une évolution aussi dans les indications. Mais ce qu'on voyait au tout début et de façon plus fréquente, c'est des complications qui peuvent aller jusqu'au coma et donc des transferts en réanimation de façon assez courte, puisque une fois que on a administré le traitement de ces complications-là, en fait, derrière, l'amélioration est systématique. Donc, par exemple, pas plus tard qu'il y a deux semaines, voilà, un week-end d'astreinte, le patient n'arrivait plus à s'exprimer, à dire son nom, son prénom, où il était. Mais en fait, là, ce qu'il faut faire surtout, c'est rassurer les patients, ça va revenir. C'est vraiment très temporaire comme toxicité. C'est effectivement très impressionnant pour les proches, pour le patient qui, lui, effectivement, rapporte une sensation d'anxiété, de panique, évidemment. Bah, tout se passe bien, et puis d'un coup, il n'arrive plus à parler. C'est un peu comme un AVC, sauf que là, en fait, il faut juste attendre que l'orage passe. Et une fois que l'orage est passé, après, il récupère les fonctions supérieures de façon extrêmement rapide et moyennant quelques semaines de récupération du fait de la fatigue du traitement, etc. Il revient donc à l'état normal comme avant le traitement. Donc là, vraiment, ça, c'est les choses sur lesquelles on insiste. C'est quand il y a ces complications-là, on est très rassurant vis-à-vis des familles, vis-à-vis des patients. Évidemment, si les formes sont très sévères et vont jusqu'à un coma, on ne va pas être si rassurant que ça. Mais du moins, sur cette forme-là, dès qu'il y a des complications comme ça, vraiment, on sait que ça va évoluer très favorablement.
Alors vous avez précisé que vous avez réussi à limiter en tout cas les effets secondaires, à les rendre moins difficiles sur le syndrome grippal. Qu'est-ce que vous avez mis en place en fait ? Comment vous avez adapté l'administration du traitement ou le suivi pour que ces effets soient moins forts ?
Alors, pour que ces effets soient moins forts, donc on a déjà, pour les patients qui sont à haut risque d'avoir ces effets indésirables, on va les hospitaliser, comme le disait Emmanuel, dans un secteur qu'on appelle le secteur protégé. En fait, c'est surtout une unité de soins intensifs où on va avoir donc plus de personnel infirmier par patient. Et donc, ça veut dire que la surveillance va être plus rapprochée, donc avec une surveillance donc jusqu'à 6 fois par jour, si besoin. Donc une infirmière qui va passer, prendre les constantes, vérifier que le patient donc n'a pas de toxicité neurologique ou quoi. Donc une surveillance vraiment très rapprochée pour ces patients-là. Et puis une fois qu'il y a des symptômes qui apparaissent, en fait, on a découvert qu'il y avait potentiellement certaines voies physiologiques qui étaient activées. Et donc on va pouvoir les inactiver avec d'autres médicaments si vraiment la complication est très sévère. Donc ça, c'est ce qu'on peut être amené à mettre en place. On peut utiliser aussi des corticoïdes, donc prednisone, par exemple, qu'on peut être amené à prendre dans le cadre d'une consultation chez son médecin traitant, bah là, nous, on ne fait pas mieux. On met des corticoïdes parfois quand la complication est suffisamment sévère. Ça permet de calmer l'inflammation, en fait. Vraiment, ça, c'est... Puis après, on les baisse petit à petit. Et donc, plus on avance, plus, en fait, la conception et la fabrication des quartilles est modifiée. Ce qui fait qu'on a dans la poche des cellules qui sont déjà tout aussi réactives contre la tumeur, mais beaucoup moins énervées par, on va dire, enfin pour parler plus simplement, mais beaucoup moins énervées par tout le process de fabrication. Ce qui fait que quand on les réinjecte, eh bien, c'est bien mieux toléré que dans les process initiaux où vraiment pour obtenir beaucoup de cellules, mais c'est surtout donc la méthode de production qui voulait qu'à cette époque-là, on les énervait beaucoup pour en avoir beaucoup à la fin. Et dans cette façon-là de produire, ça pouvait être associé à des complications. En plus de s'il y a beaucoup de cellules malades à traiter, eh bien, pareil, les lymphocytes vont voir beaucoup de cibles, donc ils vont s'énerver et donc ils vont produire cet effet d'inflammation très importante. Donc voilà, un très très gros syndrome grippal, quoi. C'est une belle grosse grippe.
Alors, des traitements efficaces mais lourds, avec potentiellement des effets secondaires impressionnants. Est-ce qu'il y a des critères particuliers pour savoir à quel patient on peut proposer ces traitements-là? Peut-être pas un critère d'âge. Qu'est-ce que ça peut être les critères?
Alors, on a des critères réglementaires qui évoluent très fréquemment selon donc les modalités d'accès au traitement. Donc là, c'est des discussions entre... d'abord, est-ce qu'il y a une étude qui montre que dans une indication, ça veut dire par exemple dans une situation où on a déjà fait une chimiothérapie, il y a une rechute, est-ce que dans une deuxième ligne de traitement, on peut faire les CAR-T-cell? Donc là, il y a des études qui sont réalisées donc pour évaluer l'efficacité de ce traitement. Et si l'Agence nationale donc de sécurité du médicament estime que il y a un bénéfice pour le patient, donc on va avoir une autorisation d'accès au traitement. Et puis après, il va y avoir différentes étapes réglementaires qui vont nous permettre de le prescrire ou non. Mais en gros, la première étape, c'est déjà vérifier donc qu'il y a une indication. Donc ces indications, donc elles évoluent au cours du temps. Là, c'est pas nécessaire de les détailler là. Mais la première étape, c'est ça. C'est est-ce que le patient peut bénéficier du traitement? Et ça, on le sait par donc la validation d'études déjà publiées par l'Agence du médicament française. Et puis ensuite, ce qu'on va être amené à faire, bah, c'est organiser toute la partie prélèvement, réinjection au sein du service, donc avec tout le travail de coordination qui a été détaillé.
Voilà, donc c'est un traitement innovant. Est-ce que vous pouvez nous dire... voilà, à peu près combien coûte un tel traitement? Est-ce que c'est un critère aussi qui peut être intéressant sur les prises en charge?
Alors, effectivement, c'est un traitement qui est coûteux. Il y a quelques années, c'était à hauteur de 500 000 euros l'injection, voire même plus, au tout début du traitement. Donc, ça pouvait, donc avec la poche traverse l'Atlantique, qu'elle revienne, et donc ce qui était facturé, entre guillemets, hein, c'était 500 000 euros. Plus on avance, plus le coût diminue, aussi parce que les modalités de production sont mieux connues, mieux maîtrisées. Et il me semble que selon le type de CAR-T-cell, on est sur une moyenne à 300 000 euros maintenant par injection. Donc ça paraît énorme dit comme ça. Nous, ce qui permet d'avoir un peu de recul sur l'impact médico-économique de ce traitement, ce sont des études qui comparent combien coûte la prise en charge habituelle des patients qui n'auraient pas eu de CAR, parce qu'à une époque, on n'en faisait pas. Donc combien est-ce que coûtait une prise en charge à l'époque où il n'y avait pas de CAR-T-cell? Et on compare à ce que coûte la prise en charge d'un patient à l'heure actuelle. Et dans ces études-là, on montre qu'en fait, pour une qualité de vie supérieure à ce qu'on faisait avant, eh bien, en fait, c'est à peu près le même coût que ce qu'on pouvait être amené à faire avant. Alors ça s'explique parce qu'avant, on faisait... Donc la fameuse chimiothérapie beaucoup plus forte, l'autogreffe qui coûte aussi cher, et aussi des lignes de traitement après, parce qu'il y avait malheureusement des rechutes et donc on enchaînait plusieurs traitements par la suite. Alors que là, j'ai presque envie de dire, les CAR-T-cell, c'est quand ça fonctionne bien, eh bien c'est presque le dernier traitement. Après, il y a une adaptation, un suivi à réaliser, mais voilà, c'est quasiment le dernier traitement pour les patients qui ne sont pas en rechute. Donc, et puis pour ceux qui rechutent, on peut potentialiser l'effet des carticelles après.
Alors, j'en profite, hein. Bon, c'est une question peut-être un peu sournoise, mais combien coûte ce traitement pour un patient ?
Ben, pour l'impatient, je pense qu'il ne voit pas le coup, parce qu'en fait, c'est pris en charge par l'assurance maladie. Donc, c'est l'assurance maladie, la société, en fait, qui va assumer ce coût. Donc, pour le patient, il a une indication, l'hématologue définit l'indication. Donc, dans le cas que décrivait Emmanuel sur le plan de la région, il nous est adressé. Et puis ensuite, on valide l'indication. Et si cette indication est validée, en fait, effectivement, comme le traitement est coûteux, il y a plusieurs instances, enfin du moins plusieurs niveaux de validation, que ce soit auprès de l'industriel, que ce soit au niveau local, bien évidemment, il n'y a pas que, enfin, on définit l'indication, mais après, on a aussi l'industriel qui valide cette indication-là. Et puis, on a aussi un devoir, comme pour d'autres activités coûteuses à l'hôpital, comme les greffes de moelle osseuse, un devoir de suivi d'activité qui nous permette de vérifier que on a bien fait les traitements aux bonnes personnes avec les bonnes indications et qu'on n'a pas utilisé ce traitement en dehors de ce qui est recommandé et de ce qui est remboursé. Et donc, de toute façon, pour un patient, c'est transparent. Il ne reçoit pas la facture des 300 000 euros à la maison, en tout cas.
Voilà, non, c'est une occasion de dire qu'on a un système de santé qui fonctionne peut-être bien. En tout cas pour le moment, que c'est à rappeler, de se dire que finalement, on peut accéder à ces traitements-là, même si on ne pourrait pas payer 300 000 euros.
Ah ben, c'est sûr qu'avec ce système de santé, nous, en tant que soignant, ce qui est satisfaisant, c'est qu'on peut permettre aux patients de bénéficier de l'innovation thérapeutique, on est finalement, malgré parfois, donc... quelques contraintes, mais qu'on arrive globalement à maîtriser avec un peu de temps et un peu de discussions, juste il y a besoin d'explications sur pourquoi est-ce qu'on a besoin de plus de moyens. Et notamment en termes de moyens, donc il y a le coût des quartiers, mais il y a aussi tout le coût de coordination et de moyens humains qui sont impliqués là-dedans. Puisque là, il y a Emmanuel et Mélanie qui sont là, mais voilà, sans elles, en fait, on ne peut pas faire ce traitement-là. Parce que on a besoin qu'elle soit là pour justement rencontrer les patients, gérer la partie coordination. Là, il faut que le patient il aille à l'établissement français du sang. On a besoin de ceux qui travaillent à l'établissement français du sang, la thérapie cellulaire, le centre de soins, les pharmaciens du CHU qui gèrent la partie reconstitution du traitement, parce qu'en fait, c'est un médicament, donc c'est géré par des pharmaciens. Donc, on a besoin de l'ensemble de cette équipe. Je ne parle même pas de tout ce que nous permet donc l'hôpital en termes d'accès aux examens complémentaires, pour le suivi des patients, les scanners, lorsqu'il y a une infection, l'équipe de microbiologie, l'équipe de réanimation qui peut être amenée à prendre en charge les patients, les équipes d'hématologie aussi pour le diagnostic des patients. Donc voilà, c'est un bateau qu'il faut coordonner. Donc tout cet équipage-là, grâce à ce temps humain qui est rendu possible par nos organisations et on arrive à pouvoir faire bénéficier ce traitement, en tout cas aux patients qui en ont besoin. Sans ce temps-là, je pense qu'on pourrait en faire beaucoup moins et on serait probablement, on devrait choisir entre les patients. Là, je n'ai pas l'impression qu'on soit beaucoup obligé d'arbitrer quand même, grâce justement à tout ce travail de cohésion et puis de suivi après, parce qu'une fois que le patient est sorti du service, il y a un suivi. Donc là, peut-être que, je ne sais pas si Mélanie ou Emmanuel voulaient détailler ce que vous faites une fois que le patient est sorti, parce qu'il y a donc les fameuses toxicités neurologiques, mais donc les patients sont recontactés, sont recontactés pour prendre des nouvelles, ils rappellent quand il y a des problèmes, on les voit en consultation, donc tout ça aussi, c'est le travail de l'infirmière coordinatrice. Donc... voilà, donc il n'y a pas que la poche, il y a aussi tout le temps derrière. Et donc, effectivement, nous, on est chanceux, je nous estime chanceux de pouvoir travailler dans ces conditions-là qu'on puisse expliquer justement qu'on a besoin de ça pour rendre service aux patients.
Oui, en effet, hein, une fois qu'ils sont sortis d'hospitalisation et rentrés au domicile, hein, on active tout le suivi rapproché sur tout le premier mois, les deux premiers mois à peu près. Toujours en communication avec les centres adresseurs pour éviter, notamment pour, on parlait des examens d'imagerie tout à l'heure, s'il y a eu un scanner à faire, qu'il soit fait près de chez lui pour éviter un aller-retour quand il vient de loin. Donc tout ça, c'est notre rôle. Et puis cette disponibilité qu'on peut avoir avec le téléphone, ils ont notre numéro, notre mail, en cas de besoin, en cas de souci, juste pour être réassurés par moment. Ils savent qu'ils peuvent nous contacter. Et nous, après, on fait le lien avec les médecins.
Voilà. Est-ce qu'il y a des facteurs prédictifs de la réponse de la toxicité ?
Là, oui, il y a plusieurs éléments qui ont été mis en évidence dans de précédentes études. Donc ça va être combien de tumeurs il reste avant le traitement. Donc plus la masse de cellules à traiter est faible, meilleure sera l'efficacité, même s'il en faut un tout petit peu quand même, du moins un tout petit peu non détectable, mais il faut quand même qu'il y ait un petit peu de cellules malades à traiter pour que les lymphocytes s'activent. Il y a ensuite la ligne de traitement. Plus on avance dans le temps du traitement, moins bonnes seront les réponses. Il y a probablement aussi des facteurs qui sont liés à la constitution de la poche des cellules. Donc comment est-ce que, puisque comme c'est un traitement on a dit sur mesure, donc chaque poche va être différente, et donc chaque poche contient des lymphocytes du patient. Et donc là, il y a de plus en plus d'études qui montrent que les lymphocytes qui sont recueillis sont aussi importants pour l'efficacité du traitement. Et donc si les cellules sont très fatiguées au moment du prélèvement, on obtiendra des carticelles qui seront plus fatiguées, qui auront plus de mal à être efficaces. Donc là, ça c'est clairement, on ne fait pas ça en routine, hein, c'est vraiment des données de la recherche. Il y a d'autres éléments après, un petit peu plus, on va dire plus dans l'environnement, mais ce qui peut compromettre l'efficacité du traitement, ça peut être de diminuer les réponses immunitaires, donc ça va être par différents moyens, donc on n'utilise pas d'immunosuppresseurs, par exemple, évidemment, pour ce type de traitement. Donc des médicaments qui vont baisser l'immunité, là on veut vraiment que les CAR-T soient très efficaces. Mais il y a des études aussi qui parlent de, c'est hors du champ de la discussion actuelle, mais de la composition du microbiote, donc qui peut moduler les réponses immunitaires. Donc selon l'exposition à des antibiotiques à large spectre, par exemple, donc là aussi il y a des... Parfois on réfléchit aussi à cette question-là. Est-ce que qu'est-ce qu'on peut utiliser de mieux pour préserver le microbiote du patient, pour optimiser la réponse, même si clairement le plus important c'est combien de maladies il reste et à quel moment est-ce qu'on est du traitement. Le reste après c'est de la recherche, on n'est pas encore arrivé sur des éléments qui pourraient avoir un impact en tout cas sur la prise en charge des patients. Et pour finir sur ce point-là, par contre, ce sont des belles pistes pour optimiser la fabrication des cellules CAR, par exemple aller chercher des cellules chez d'autres patients, chez des donneurs sains, produire des CAR-T-cells avec des cellules qui viennent de donneurs sains et qui permettraient justement de ne pas être épuisées comme celles des donneurs. Et puis après, il y a toute une stratégie qui vise à désépuiser ou réveiller le lymphocyte T avant de le modifier. Donc ça aussi, c'est de la recherche, on n'est pas encore sur de la pratique chez le patient.
Et la recherche en soins infirmiers, alors, je me tourne vers les deux infirmières qui sont ici dans le studio. Quelles pistes on pourrait proposer à des infirmières coordinatrices, des infirmiers qui s'intéressent à la recherche dans ce domaine-là ? Sur quoi ça pourrait porter ?
Je ne sais pas trop. Hein. C'est vrai que nous, on ne fait pas beaucoup de recherche sur la coordination. On est vraiment sur le parcours du patient avant, pendant, après. Donc après, c'est vrai que c'est quelque chose, on n'en a pas parlé. C'est vrai que, à ma connaissance, au niveau de la recherche clinique, pour l'instant, côté infirmier, chez nous, il n'y a pas de... c'est pas une discussion qu'on a eue, pas de projet ou autre chose comme ça.
C'est à inventer, à trouver. Je vous propose de faire une mini-pause musicale avant de... de parler du réseau avec lequel vous travaillez autour de ces traitements innovants. On va écouter un extrait d'une chanson qui s'appelle « Nous sommes là pour toi ». Alors, je spoil aux auditeurs, on m'a envoyé ces liens d'écoute par mail. Hein, c'est votre collègue Emmanuel Vian qui m'a fait parvenir ces deux musiques. Alors, peut-être que vous voudriez préciser à nos auditeurs de quoi il s'agit. C'est un hommage aux soignants, si j'ai bien compris, mais c'est quoi ?
Alors, c'est le projet qui est porté par le professeur Gian, donc qui est c'est un projet de c'est un concept album autour de la prise en charge des patients qui sont atteints d'hémopathie maligne. Et donc dans le projet, l'idée est de reprendre le parcours d'un patient et à chaque étape clé de son parcours une chanson donc qui est alors chantée interprétée par les soignants par les chefs de service par exemple sur celle qui a été présentée donc il y a bientôt une heure et puis là ici donc c'est l'équipe soignante. Alors je pense que justement quand on parlait d'être là au bénéfice du patient, bah, justement je pense que cette chanson là était vraiment penser comme ce qu'on fait au quotidien. On accueille les patients avec leurs inquiétudes et leur conception vis-à-vis de la maladie. Voilà. En tout cas, au sein de l'équipe, on est là pour les accueillir et pour les aider et être au bénéfice de leur santé et de leur qualité de vie avec les traitements qu'on peut être amené à leur faire. Et donc là, l'idée, c'est donc des infirmières, des secrétaires, une cadre de santé et des médecins qui ont chanté cette chanson donc a été composée par le professeur Gian et Sébastien Lemain.
Un extrait dans la Méridienne et on se retrouve tout de suite après.
Choc. Question. Inquiétude. Pourquoi ? Angoisse. Demain. Indésirable. Guérir. Peur. Inconnu. Incertitude. Traitement. Famille. Après.
Nous sommes là pour toi.
C'était un extrait de Nous sommes là pour toi. Donc voilà, une chanson composée par votre collègue donc Emmanuel Gian. Alors pour terminer cette émission La Méridienne où il était question d'hémopathie, ça y est, j'en perds mes mots, maligne de cellules CAR-T, donc traitement innovant, peut-être voudriez-vous nous dire quelques mots sur le réseau avec lequel vous travaillez.
Bien sûr, donc ce traitement il est rendu possible donc, par un réseau de professionnels de santé. Je pense que si on va du plus large au plus petit au niveau du CHUD Tours, donc le plus large c'est dans toute la région centre, donc même parfois le Mans, les patients qui sont suivis au Mans qui nous sont adressés, donc on touche un tout petit peu en dehors de la région. Donc ça veut dire des patients qui viennent de Chartres, de Blois, de Bourges, de Châteauroux, d'Orléans, même si Orléans vont probablement faire des carticelles dans quelques mois, eux aussi. Eh bien, en fait, ces professionnels de santé, donc dans le cadre d'un réseau qui s'appelle le réseau Hématocentre, qui est donc un réseau de professionnels de santé spécialisés en hématologie, donc des médecins principalement, qui se rencontrent une à deux fois par an. Et l'idée, c'est justement, on parlait des indications, c'est de pouvoir échanger ensemble sur ce qu'on fait en termes de pratique d'hématologie pour au mieux harmoniser la prise en charge des patients sur la région, pour que tout le monde ait le même accès aux soins, et notamment parler de quand est-ce qu'on peut être amené à proposer des patients pour des thérapies innovantes qui sont réalisées pour l'instant que au CHU. Donc ça, c'est le réseau Hématocentre qui s'intègre à l'intérieur du réseau Oncocentre, qui est aussi un réseau plus dédié à l'oncologie. Là, on parle d'hémopathie maligne, donc ça fait aussi partie de l'oncologie d'une certaine manière, hein, c'est des cancers. L'ensemble de ce réseau-là, donc de professionnels de santé, donc ils peuvent être amenés à se rencontrer, à discuter. Et puis si on se rapproche plus donc, du département, donc on a aussi donc, des collègues donc, du 37, donc, notamment des cliniques. Je pense au pôle de santé Léonard de Vinci, pardon. La clinique NCT aussi, où il y a quelques hématologues qui peuvent être amenés à se rencontrer dans le cadre de Hématocentre et à nous adresser des patients. Et puis si on zoome encore un petit peu plus sur le CHU de Tours, eh bien là, on va avoir donc, tout un réseau avec au service du patient donc, la partie de le service, les pharmaciens, les autres médecins, donc qui vont être les autres spécialistes qui vont être amenés à travailler avec nous, la réanimation s'il y a besoin, les laboratoires pour les différents examens donc de suivi, l'imagerie, la radio, la médecine nucléaire notamment, et qui on travaille beaucoup pour le suivi des patients via les scanners, donc l'imagerie qui permet de détecter l'avidité en glucose, qui sont donc un très bon marqueur de persistance des cellules malades. Et puis après, on a aussi donc l'établissement français du sang. Je pense qu'on a beaucoup parlé d'eux, mais on n'en parle pas assez parce que vraiment, à chaque fois, donc une collaboration très simple et avec eux, c'est historiquement donc une collaboration bien intégrée et avec qui on peut construire ce type de projet et toujours à l'écoute de ce qu'on peut être amené à proposer. Et puis eux aussi, force de proposition et ça marche très très bien. Et après, si on rezoome un petit peu sur le plan du CHU, donc on a aussi un réseau via la recherche, donc avec notamment une unité de recherche, donc Endocox, au sein de laquelle donc une thématique de recherche CAR-T-cell qui est émergente, et puis ensuite donc une unité donc labellisée cancer. Et après, donc si on reste sur le réseau, je pense qu'on peut parler du réseau patient. Donc on a parlé de Nous sommes là pour toi. Donc effectivement, les patients sont là aussi pour les soignants via les associations, puisque nombre de projets qui sont réalisés au CHU sont aussi financés en partie par des associations. Donc je pense donc à l'association CanSen, qui est historiquement une association de soignants aussi. Il y a des soignants bénévoles donc dans cet asso et aussi d'anciens patients donc qui ont pour objectif de favoriser donc la prise en charge des patients, l'accueil des patients, les projets aussi des soignants, que ce soit de la recherche ou des projets juste voilà, pour le service ou pour l'accueil des patients. Les associations aussi, donc Tour Autogreffe, qui est une association donc, du service d'hématologie thérapie cellulaire. Et puis après, des associations telles que la Fédération Leucémie Espoir aussi, qui soutient le service dans différents projets. L'association F3M pour les patients suivis pour un myélome. Je vais en oublier l'association ELI aussi, donc une association plus dédiée aux patients suivis pour un lymphome ou une leucémie lymphoïde. Et puis après, divers organismes tels que la Ligue contre le cancer aussi, qui contribuent à la prise en charge des patients, avec notamment la possibilité de leur mettre à disposition une socio-esthéticienne en hôpital de jour. Donc il y a vraiment de l'aide, de l'activité physique adaptée pour les patients qui peuvent se rendre à la Ligue contre le cancer. Donc l'ensemble de ces acteurs, qu'ils soient donc soignants ou bénévoles, donc ils sont vraiment au service du patient et de la prise en charge pour qu'on puisse, qu'on parlait du service public, mais proposer une prise en charge de qualité avec donc des standards médicaux, on l'espère, ambitieux et élevés, mais aussi des standards de prise en charge globale et de soins de support également avec ambitieux et avec des standards élevés.
Et le médecin généraliste dans tout ça, est-ce que ça peut être un de vos interlocuteurs, Emmanuel Lardier ?
Oui, bien sûr. Surtout dans le suivi après, hein, pour les patients. C'est vrai, quand ils nous appellent, des fois, qu'ils ont besoin, on oriente très facilement vers le médecin généraliste en première intention. On reste à la disposition aussi du médecin généraliste. C'est important qu'il fasse partie intégrante, en fait, de la prise en charge du patient, hein. Faut pas couper ce lien, entre guillemets. Des fois, il y a d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la pathologie hémato. C'est important de garder ce lien avec le médecin généraliste et de l'impliquer dans la prise en charge. Ça arrive très fréquemment que l'hématologue échange au téléphone avec le médecin généraliste du patient.
Est-ce que ça peut aussi rassurer les patients de se dire, l'hôpital communique avec le médecin que je connais bien et qui me suit depuis...
Ah oui, bien sûr, c'est important. Hein. Dans la relation de confiance, elle doit être instaurée dès le début. Mais j'ai envie de dire, c'est vrai que surtout sur des patients qui viennent des fois de loin ou qui ne connaissent pas, il y a l'annonce de la maladie aussi qui fait peur, l'annonce de la rechute par moment. Donc il y a toute cette anxiété du patient, plus ou moins importante en fonction du patient. Mais c'est vrai qu'il faut lui dire que il y a tout ce réseau autour de lui qui fonctionne bien, et puis en général ça marche plutôt bien avec la médecine de ville, ça se passe bien.
Ben merci beaucoup à vous trois d'être venus jusqu'au de Lyon, jusqu'à Radio Campus Tour, radio de poche curieuse, et toujours ravie donc de ces émissions, je le précise tout de même, en partenariat avec l'INSERM. C'est l'occasion pour moi de remercier Jean-Michel Escoffre et Pierre Da Silva, donc, qui font la promotion de ces émissions et qui propose aux diverses équipes INSERM de la région de venir dans cette émission. Merci à eux. Donc cette émission sera retrouvée en podcast sur notre site Radio Campus Tour. Et pour finir, je vous annonce, auditeurs, auditrices, que nous avons rendez-vous le 28 octobre avec Frédéric Briand, donc équipe iBrain cette fois-ci, et nous parlerons de scientifiques en rébellion. Je vous remercie encore et puis merci à Rachid aussi d'être venu dans cette émission, et peut-être qu'on te retrouvera aussi bientôt sur nos ondes. Bonne journée à toutes et à tous, à l'écoute évidemment de nos excellents programmes.